Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Señoras y señores, la República Catalana ha ganado a la monarquía del 155.
Bonjour à tous et à toutes. Une fois de plus, les regards sont braqués sur Barcelone, où les indépendantistes viennent de remporter de justesse les élections au Parlement régional, où ils obtiennent la majorité des sièges. Une victoire aussitôt commentée au Royaume-Uni, plus exactement en Écosse, où d'autres indépendantistes suivent de très près la crise espagnole. Marie Billon.
La première ministre écossaise n'a pas tardé à tweeter ce matin à propos de la victoire des indépendantistes catalans. Mais Nicola Sturgeon s'est contentée de partager un article de la BBC sur le sujet. Elle a laissé le soin d'émettre un commentaire à Angus Robertson, l'ex-chef du parti nationaliste écossais à Westminster, qui a perdu son siège cet été. Félicitations au parti vainqueur, écrit-il sur la plateforme de réseau social. Le premier ministre Rajoy doit commencer à respecter le souhait démocratique du peuple de Catalogne, dit-il encore. Le SNP a toujours franchement soutenu les indépendantistes catalans. Cette semaine, les députés régionaux écossais ont porté le ruban jaune devenu symbole de la lutte pour l'indépendance et le jour du vote, plusieurs ont manifesté devant Holyrood à Édimbourg pour appeler au respect de la démocratie. Mais ce que les Écossais respectent surtout, c'est le droit à l'autodétermination. Nicola Sturgeon avait dit en octobre que le peuple catalan devait avoir le droit de choisir son avenir. C'est le combat de David contre Goliath que le SNP soutient ouvertement. La ligne que le parti ne veut surtout pas franchir, c'est l'appel à la désobéissance. Si Nicola Sturgeon conseillait aux Catalans de ne pas respecter le gouvernement central de Madrid, qui juge le référendum illégal, elle enverrait ainsi un message à Londres. Nous aussi, nous pourrions déclarer unilatéralement notre indépendance. Le SNP se réjouit donc aujourd'hui de la victoire par les urnes des indépendantistes catalans. La preuve que le peuple n'écoute pas les capitales quand elles montrent leurs muscles. Et c'est aussi un message qu'Édimbourg veut que Londres reçoive.
Ils disent fuir les migrants et la vie trop chère. Les Allemands sont de plus en plus nombreux à acheter une maison en Hongrie, patrie ultra-conservatrice du Premier ministre Viktor Orban, qui lui refuse d'accueillir un seul migrant sur son sol. Sur les bords du lac Balaton, les stations balnéaires se remplissent de nouveaux résidents allemands, opposés à la politique d'Angela Merkel. Pour le plus grand bonheur des agents immobiliers, c'est un reportage de Frédéric Lebel.
En bordure de la pelouse parsemée de nains de jardin, c'est au premier étage de son pavillon que Günther Schwarz a installé son agence Balaton Immobilien. Voilà 17 ans que cet Allemand réside en Hongrie, mais depuis 2015, les affaires reprennent avec une clientèle d'un genre nouveau, des compatriotes. Rudiger et sa compagne Catherine sont originaires de Düsseldorf. Ils sont en vacances pour quelques semaines, ils viennent d'acheter une maison. Dans 5 ans, ce carrossier peintre sera à la retraite et il compte quitter au plus vite son pays natal qu'il ne reconnaît plus.
Tout a changé, la politique de Merkel a tout chamboulé, tout part à volo, on ne touche plus rien pour la retraite. Je suis désolé, mais l'argent, il n'y en a plus que pour les réfugiés, ça j'en peux plus. Moi j'attends l'âge de la retraite et je me casse. Le nombre d'étrangers explose, il y en a définitivement trop.
Oui, et tout ce qu'ils font, c'est attendre que les femmes sortent dans la rue et alors ils les attaquent pour les tripoter. Et s'ils sont interpellés, ils n'ont aucune amende.
Face à une Allemagne qui leur semble avoir perdu ses repères, la Hongrie ressemble au paradis. Le Premier ministre, Viktor Orban, exalte les racines chrétiennes tout en refusant d'accueillir un seul migrant au titre de la solidarité européenne. Viktor Orban, un premier terrain d'entente entre ses nouveaux clients et leur agent immobilier, fan du Premier ministre hongrois.
Oui, j'aime bien ce qu'il fait. Viktor Orban, il fait vraiment ce qu'il dit. Ce ne sont pas des promesses en l'air. Et c'est quelque chose d'assez rare en politique. Les Hongrois, ils ne savent pas quoi faire des migrants. Surtout quand il y a déjà beaucoup de monde ici qui n'a pas de travail. Dans cette situation, s'occuper des migrants, ce serait vraiment trop difficile.
Près de son bureau, Günther nous montre 3 grands classeurs, des milliers de demandes d'informations en provenance d'Allemagne. Les retraités ne sont plus les seuls intéressés. Des familles avec des jeunes enfants viennent aussi s'installer sur les rives du lac Balaton. Là aussi, il a des arguments à faire valoir.
C'est très facile de s'installer ici, bien plus qu'en Allemagne. Par exemple, les écoles sont de très bon niveau. Les élèves en fin de scolarité maîtrisent 3 à 4 langues. Et si vous arrivez ici sans parler le hongrois, On va vous donner des cours en allemand jusqu'à ce que votre niveau soit assez bon pour suivre les leçons normalement. C'est vraiment bien.
Un système hongrois qui permet l'intégration réussie de migrants allemands, cela ne choque ni Gunther ni Rudiger, étonné qu'on songe même à comparer leur situation avec celle de migrants syriens. La grande différence, explique-t-il, réside dans l'épaisseur de leur portefeuille, d'autant plus impressionnant dans un pays où l'immobilier est encore très bon marché, Gunther Schwarz.
Alors la maison la moins chère est vendue à 6 000 euros, mais il faut la rénover entièrement. Ensuite, on a des biens à 10 000, 20 000 euros, jusqu'à 200 000 euros. Mais à ce prix-là, vous avez vraiment une maison immense, en parfait état. On a vendu une maison à 79 000 euros, qui faisait 130 mètres carrés, 3 chambres, 3 salles de bain et un terrain. Mais ici, les gens ne sont pas idiots. Ils voient les clients allemands débarquer. Alors cette année, les prix commencent un peu à monter.
Rudiger, qui vient juste d'investir dans une maison avec jardin et 3 chambres à quelques dizaines de kilomètres du lac, confirme les prix sont imbattables.
Pour le prix que m'a coûté ma maison ici, je ne pourrais même pas me payer un garage en Allemagne.
Ce jour-là, c'est jour de marché dans la petite ville la plus proche, la station balnéaire de Kestei. L'agence de Laszlo Kozma a pignon sur rue, sur la place principale. En passant les portes de Capital 99, nous sommes accueillis en allemand, tout comme 70% de la clientèle, germanophone. L'Allemagne est tout de même à 7 ou 8 heures de route en voiture, mais il y a désormais une petite compagnie aérienne low cost qui assure des liaisons directes en été. En faisant de la publicité en allemand sur Internet, Laszlo Kozma a l'impression de renouer avec une longue tradition des rives du lac Balaton.
Oui, c'est une longue histoire. Moi, je suis trop jeune pour l'avoir connue, mais du temps du communisme, c'est ici, au lac Balaton, que les Allemands de l'Est et les Allemands de l'Ouest pouvaient se retrouver. Mais quand ces personnes qui sont âgées maintenant reviennent, elles réalisent que tout a changé durant les 30 dernières années. Il y a eu beaucoup d'investissements au bord du lac Balaton. Il y a des propriétés de luxe. C'est une belle station balnéaire qui a beaucoup changé.
Son dernier client est justement un des artisans de ce changement. Karl, ancien directeur marketing à la retraite, nous montre les photos de son immense villa flambant neuve, d'un blanc immaculé, construite en haut d'une colline, spécialement pour les investisseurs étrangers. Sa grande terrasse a une vue plongeante sur le lac Balaton. Karl a vécu longtemps à l'étranger, mais il n'a pas forcément une mise en perspective claire de l'actualité de ces dernières années. Plutôt que de parler de réfugiés, il parle de fugitifs. Bref, la situation en Allemagne est un désastre.
Il faut juste regarder les informations sur Internet. Et là, vous trouvez des informations qui ne sont pas des fake news. Chaque jour, dans une ville d'Allemagne, il y a des meurtres, des viols, des cambriolages. Bref, des choses horribles, quelle que soit la façon dont vous les appelez. Il faut juste se demander combien de temps cela peut-il durer et combien de temps pouvons-nous continuer à payer ces gens-là et que se passera-t-il quand nous n'aurons plus assez d'argent? Réfléchissez à ça.
Pour Karl et sa compagne, c'est tout réfléchi. En janvier 2018, ils emménagent dans leur nouvelle villa de Kestei.
Ce mercredi, les États-Unis infligeaient de nouvelles sanctions contre le dirigeant tchétchène. Ramzan Kadyrov est accusé de graves violations des droits de l'homme, notamment à l'encontre des homosexuels. C'est ce que révélait il y a quelques mois une enquête menée par Elena Milashina, journaliste russe de Novaya Gazeta. Étienne Bouche l'a rencontrée à Moscou.
En publiant cette enquête au printemps, Novaya Gazeta a suscité le malaise et l'effroi. Le journal révélait le sort subi par les homosexuels en Tchétchénie. Entre décembre 2016 et mars 2017, les autorités locales auraient arrêté plus d'une centaine d'hommes en raison de leur orientation sexuelle. Les personnes ont ensuite été enfermées dans des lieux tenus secrets, puis battues ou torturées. Face à l'ampleur du scandale, le pouvoir central a été contraint de réagir. La journaliste Elena Milashina suit l'affaire depuis son commencement.
Malheureusement, j'écris depuis longtemps sur les exécutions extrajudiciaires en Tchétchénie. Et toutes ces années, depuis que la République est dirigée par Ramzan Kadyrov, il a été impossible d'obtenir une réaction du pouvoir. Cette fois, grâce au retentissement international, on a pu obtenir le lancement d'investigations. C'est très peu, mais le fait que les autorités russes aient engagé cette démarche sous la pression de la communauté internationale, c'est déjà une grande avancée.
Même si elle est constitutive de la Fédération de Russie, la Tchétchénie est dirigée selon ses propres règles. Moscou a tendance à fermer les yeux en échange d'une loyauté politique. Ces derniers mois, les preuves appuyant l'enquête de Novaya Gazeta se sont accumulées. Elena Milashina assure que plusieurs personnes ont été tuées. Pourtant, plusieurs mois plus tard, les investigations sont toujours en cours.
Les autorités manifestent de manière flagrante leur volonté de ne pas enquêter sur ces crimes. La position du pouvoir russe et des organes d'investigation est claire. En aucun cas reconnaître ce fait par le biais d'une procédure pénale sur la persécution d'individus au motif de leur orientation sexuelle.
Les autorités ont longtemps affirmé qu'il n'y avait pas de plaignant. Or, s'il n'y a pas de plainte, il n'y a pas d'affaire. La toute première victime a témoigné publiquement au mois d'octobre. Maxime n'est pas tchétchène, mais russe, originaire de Sibérie. Il travaillait alors à Grozny. Il affirme avoir été arrêté au mois de mars, puis battu, enfermé dans une cellule pendant 12 jours. Maxime a décidé de parler malgré l'omerta. Il a été passé au détecteur de mensonges qui n'a pas confirmé qu'il disait la vérité. Pour Elena Milashina, la priorité, c'est de mettre les victimes à l'abri.
Je suis récemment revenue d'un pays ayant délivré de nombreux visas et statuts aux victimes. J'ai rencontré ces jeunes gens et ils se sentent très bien. Je suis très reconnaissante à l'égard de tous ces pays qui ont ouvert leurs portes à ces victimes, car c'était le seul moyen de sauver ces personnes. Ça n'aurait pas été possible en Russie. Elles auraient toutes été tuées tôt ou tard.
Dans la société tchétchène, très religieuse et très conservatrice, l'homosexualité est jugée inacceptable. La majorité des familles la considèrent comme un crime passible de mort. Les homosexuels vivent avec la peur d'être identifiés et traqués partout en Russie. En publiant cette enquête, Elena Milashina a été accusée de propager des mensonges et de souiller l'honneur du peuple tchétchène, avec les conséquences que cela implique.
Après la publication, il a fallu que je quitte le pays. Jusqu'à maintenant, je suis en retrait à l'étranger. Je reviens de temps en temps en Russie pour poursuivre mon travail et continuer de rassembler les preuves que les exécutions extrajudiciaires se poursuivent en Tchétchénie, tout comme la traque des individus en raison de leur orientation sexuelle. Rien ne s'est arrêté, même si cela est fait de façon moins massive.
Les associations de défense des minorités sexuelles incitent désormais les victimes à témoigner. L'année prochaine, une plainte va être déposée auprès de la Cour européenne des droits de l'homme.
À leur tour, ils sacrifient au rite du calendrier. Après les pompiers, les rugbymen ou les chorales, ce sont les bergers portugais qui ont pris la pause pour la bonne cause, c'est-à-dire la leur. Tous vivent dans le massif central portugais, durement touché par les incendies de l'été dernier, Marilyn Darcy.
Certains l'ont déjà surnommé le calendrier Pirelli des bergers portugais. Une comparaison un peu exagérée. C'est à peine si quelques-uns des 12 hommes de la montagne d'Estrela, au centre du Portugal, qui figurent sur le calendrier, montrent leur torse. L'un d'entre eux arbore fièrement les marques de bronzage délimitées du t-shirt qu'il porte d'habitude pour se protéger du soleil. Ils ont entre 22 et 80 ans, des yeux rieurs, de belles moustaches ou les rides de l'âge. Sur la fiche d'identité, à côté de leur portrait, le nombre de brebis qu'ils possèdent. La mise en scène, par ailleurs de belle qualité, n'a pas la prétention de rivaliser avec celle des grands calendriers de renommée internationale. La beauté des bergers du calendrier lusitanien est ailleurs. Liliana Carona, qui en a eu l'idée, est formelle. Elle se trouve dans la sincérité et la spontanéité avec laquelle ces hommes de solitude transmettent un peu de leur quotidien. Ils dévoilent au passage le lien intime qu'ils ont tissé avec la nature. Liliana, qui travaille pour le journal de Gouveia, localité au cœur du massif central portugais, a voulu faire acte de solidarité et mettre en lumière une profession en voie de disparition. Les événements tragiques de l'été dernier ont accentué davantage la précarité de la situation. Le cheptel de brebis et de chèvres a souffert, beaucoup d'animaux sont morts dans les grands incendies qui ont ravagé le centre. Quant à l'herbe verte, elle ne reviendra qu'au beau jour. Les bergers, eux, se font de plus en plus rares. Leurs conditions de vie sont extrêmement difficiles. Le calendrier, édité à 400 exemplaires, vendu entre 5 et 7 euros, s'arrache comme des petits pains. La moitié au moins des recettes est reversée à En Cause, une association qui soutient l'élevage ovin et aide directement 400 de ses 3000 membres. L'année prochaine, pour le calendrier, il devrait laisser la place aux bergères.
Just a minute. The leader of the band wants to show you how well they can play. Let's listen.
Bonjour Vincent Théval.
Bonjour Laurent.
En cette période de Noël, on a la tête dans les étoiles avec des nouvelles d'une star islandaise.
Eh oui, et des bonnes nouvelles de Björk pour changer, puisqu'on avait quitté la compositrice islandaise en 2015 sur la note un peu amère d'un album entièrement consacré à son divorce et d'une tournée que Björk avait dû interrompre tant il lui était pénible d'interpréter sur scène ses chansons de rupture. Et c'est un 9e album chargé d'une toute autre énergie qui paraît en cette fin d'année, Utopia, un disque d'une grande ambition et d'une grande beauté conçu en étroite collaboration avec le musicien vénézuélien Arca. Au fil de ces 71 minutes denses et libres, vous pourrez entendre des programmations électroniques, des cordes, de la harpe, un chœur ou encore un ensemble de 12 flûtes, mais aussi, si vous tendez l'oreille, quelques chants d'oiseaux, un Eden pop où se déploie la voix de Björk, toujours aussi émouvante.
Ce dernier album de Björk que nous refermons cette édition réalisée et mise en ondes par Françoise Grelot. Accent d'Europe à retrouver sur RFI.fr à la page émission et à podcaster sur notre appli RFI Pure Radio. Et dès lundi et pendant 15 jours, vous pourrez réécouter les meilleurs moments d'Accent d'Europe.